France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Israël est donc passé à l'acte. Dans la nuit de jeudi à vendredi, son aviation a frappé au cœur les ambitions nucléaires de l'Iran et décapité son élite militaire et scientifique. Une attaque fulgurante d'une ampleur sans précédent sur plusieurs sites à la fois, et ce à la veille de la reprise prévue à Oman des négociations sur l'encadrement du programme nucléaire entre l'Iran et les États-Unis. Washington insiste sur le fait qu'il s'agit là d'une action unilatérale d'Israël. Contrairement aux habitudes, les réactions officielles ne témoignaient d'aucune solidarité avec l'initiative d'un Premier ministre israélien dont on sait la détermination longuement mûrie de venir à bout du régime désigné comme l'ennemi principal de son pays. Si Donald Trump en a été averti, a-t-il tenté de le dissuader ou estime-t-il que les Iraniens seraient ainsi condamnés à accepter ses propres conditions? Voilà en tout cas ce président qui rêve d'un prix Nobel de la paix, condamné à voir un nouvel embrasement au Moyen-Orient, condamnant ses espoirs et aussi ses efforts pour imposer ses talents de négociateur. À Téhéran, le guide suprême, Ali Khamenei, a promis une riposte puissante. Des drones ont été lancés hier vers Israël, interceptés en vol sans faire de dégâts. Quels moyens le régime iranien est-il maintenant en mesure de déployer, maintenant que les milices armées qui formaient son avant-garde régionale, à commencer par le Hezbollah au Liban et en Syrie, a été fortement affaibli? Depuis le Yémen, les Houthis promettent de poursuivre leurs attaques, mais c'est là un renfort marginal. Comment, en Iran même, la population réagit-elle à cette nouvelle épreuve alors que les conditions économiques s'aggravent et que la jeunesse urbaine rêve de secouer le joug religieux? Les pays arabes, ce matin, restent circonspects. Ils condamnent, bien sûr, les Européens qui se sont concertés par téléphone hier, semblent pris de court. À la veille d'une réunion du G7 au Canada et d'une conférence à l'ONU où Emmanuel Macron espérait avancer vers la reconnaissance d'un État palestinien, que peut faire encore la diplomatie? Eh bien, c'est ce que nous allons comprendre grâce à vous, Héloïse Fayet, chercheuse à l'Institut français des relations internationales, spécialiste des questions nucléaires. Avec nous, et je l'en remercie, Azadeh Kian, vous êtes professeure de sociologie, directrice du Centre d'enseignement et de documentation et de recherche pour les études féministes de l'Université Paris-Cité. François Hesbourg, conseiller spécial du président à la Fondation pour la recherche stratégique et aussi à l'International Institute for Strategic Studies. Depuis Beyrouth, Karim Émile Bitar, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph et aussi à Sciences Po à Paris, chercheur associé à l'IRIS, et Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris. Héloïse Fayet, que sait-on de la gravité, du degré de destruction du dispositif nucléaire iranien ce matin?
Alors, pour le moment, il y a apparemment une principale usine de production d'uranium enrichi, donc l'un des dispositifs clés du programme nucléaire iranien qui a été attaqué. Et il s'agit des usines de Natanz, donc on en voit les images satellitaires qui a été fortement endommagée. Mais il est encore aujourd'hui trop tôt, en fait, pour évaluer l'entièreté des dégâts qui ont été faits sur cette usine. Il y a une possible destruction d'une partie des centrifugeuses en sous-sol, selon les Israéliens. D'autres analystes en sources ouvertes affirment au contraire que les dégâts ne sont que superficiels. Mais en tout cas, l'autre installation principale de production d'uranium enrichi en Iran, c'est la centrale de Fordo. Et celle-ci n'a, pour le moment, pas été touchée par Israël, notamment en fait parce qu'elle est beaucoup mieux protégée que la centrale de Natanz. C'est une installation semi-enterrée et donc qui est beaucoup plus difficile à détruire, notamment parce qu'aujourd'hui, Israël n'a pas les bombes assez performantes pour pénétrer en fait les bunkers qui abritent les centrifugeuses de la centrale de Fordo. Donc, est-ce qu'il ne s'agissait que d'un prélude à d'autres attaques? Est-ce que Fordo sera la prochaine si les opérations israéliennes se poursuivent? Ou en réalité, et je penche plutôt vers ceci, à mon sens, l'opération israélienne dans la nuit de jeudi à vendredi, qui se poursuit encore, est plutôt en fait une attaque globale sur à la fois le leadership militaire et politique iranien, avec plusieurs dignitaires dont certains n'ont pas de lien avec le programme nucléaire iranien qui ont été neutralisés. Il y a également la destruction d'usines de production de missiles balistiques, donc qui pour l'instant ont déjà été utilisés par l'Iran contre Israël, donc qui représentent en réalité la vraie menace contre le territoire israélien depuis l'Iran. Et puis donc la centrale de Natanz, mais a priori pas d'autres sites nucléaires majeurs.
Et ce qui est évident aussi, Héloïse, c'est la décapitation, c'est-à-dire que le patron de la force aéroportée éliminé, le patron des gardiens de la Révolution éliminé, le chef d'état-major éliminé et plusieurs scientifiques qui participaient évidemment au plus haut niveau à ce programme nucléaire.
Un témoignage de la très bonne capacité de renseignement et de ciblage par Israël. Alors, certaines sources affirment en réalité qu'une partie de cet état-major se trouvait au même endroit lors de la frappe, ce qui a facilité effectivement ce ciblage. Mais la principale neutralisation, c'est effectivement celle du général Halizadeh, donc qui en fait dirigeait la force aérospatiale des gardiens de la Révolution et donc qui avait sous son contrôle justement ces missiles balistiques qui sont utilisés pour l'instant avec une charge conventionnelle contre Israël. Mais les Iraniens ont déjà prévenu à plusieurs reprises, ils s'étaient assurés de la dissémination de la connaissance au sein du régime iranien en termes d'armement nucléaire. Et puis surtout, il avait aussi prévenu des frappes israéliennes contre les installations nucléaires seraient utilisées comme une justification par l'Iran déjà pour quitter le traité de non-prolifération nucléaire dont ils font encore partie et qui les empêche sur le plan juridique et au niveau du droit international de se doter de l'arme nucléaire. Et puis, il est aussi possible en fait qu'ils fassent d'énormes efforts supplémentaires pour se doter d'une arme nucléaire fonctionnelle, ce dont ils ne disposent pas aujourd'hui, afin justement d'éviter de nouvelles frappes similaires de la part d'Israël, qui en fait apparaît plutôt aujourd'hui comme une tentative de changement de régime israélien, plutôt que comme une opération uniquement militaire qui ciblerait les sites nucléaires iraniens.
Avec un premier ministre israélien qui promet une opération sur plusieurs jours. Frédéric Ancel, vu de Jérusalem, est-ce que les partisans de Benjamin Netanyahou applaudissent des deux mains?
Alors non seulement ces partisans applaudissent, mais la quasi-totalité de la population et de la classe politique. Pour une raison assez simple, c'est que là, il n'y a pas de problème moral. Il n'y a pas de problème identitaire. On ne parle pas du petit ou du grand Israël. Il n'y a pas de territoire occupé ou libéré. Les orthodoxes et les laïcs, les sionistes religieux, en réalité, tout le monde considère que le danger nucléaire iranien est de type réellement existentiel. Et regardez à quel point d'ailleurs, dans la classe politique, les opposants principaux, je pense notamment au leader de centre-gauche laïque Tommy Lapide, a applaudi des deux mains, pour reprendre votre juste expression. Donc de ce point de vue-là, il n'y a jamais eu véritablement en Israël, c'est vrai au niveau de l'état-major, c'est vrai dans la classe politique, c'est vrai dans la population, de débat. L'Iran, en tout cas la possible nucléarisation d'Iran, est considérée comme dangereuse. Ça, les choses de ce point de vue-là sont claires. Et Netanyahou, qui était déjà revenu au pouvoir en 2009 déjà, il avait, on s'en souvient, hein, en septembre 2009, à l'Assemblée générale des Nations Unies, présenté un croquis en forme de bombe, un petit peu à l'artisanal, à l'ancienne, et en affirmant que de toute façon, il ne restait que très très peu de temps, il a même parlé d'ailleurs de 6 mois, avant que l'Iran ne se dote réellement d'une bombe. Autrement dit, Netanyahou a toujours, de ce point de vue-là, sur ce dossier en tout cas, pu surfer sur une opinion qui lui était de toute façon acquise, parce qu'encore une fois, les Israéliens se perçoivent comme vivant sous la menace d'une véritable extermination. D'ailleurs, il l'a dit hein, dans un discours très particulier, très fort, en anglais, donc évidemment adressé notamment aux Américains, où il a mentionné le risque d'une nouvelle Shoah, mais où il a aussi cité des versets bibliques. Donc on est vraiment dans un moment solennel, et je rejoins ce qui a été dit par Héloïse Fayet. Je pense que là, c'est la bonne. Je veux dire, aux yeux des Israéliens, ce n'est plus seulement une frappe ou une série de frappes ou une menée plus ou moins psychologique ou technique pour faire comprendre à l'adversaire qu'ils ont la capacité de, mais il s'agit réellement de gagner, alors au moins plusieurs années, avant que l'Iran puisse éventuellement, alors ce régime ou un autre, évidemment Netanyahou espère un autre régime, obtenir une bombe atomique.
Précisément, le patron de l'agence qui surveille le degré d'enrichissement d'uranium conduit en Iran, disait précisément avant-hier, je crois, que l'Iran ne respectait pas les contraintes qui étaient imposées par l'agence internationale. Karim Émile Buitar, vous êtes à Beyrouth. Quelle est la réaction vue de Beyrouth face à cette nouvelle déflagration par rapport à un ennemi tel qu'il est perçu, vu de chez vous, qui est Israël. Israël, il faut le rappeler, qui bombardait encore le sud de Beyrouth il y a quelques jours, malgré le cessez-le-feu qui a été conclu, et aussi par rapport à l'Iran.
Alors, on note une grande angoisse, la volonté d'insulariser cette nouvelle tourmente régionale. Et il faut dire que moi, lorsque le Hezbollah n'était pas encore aussi affaibli, la situation a pu être plus dangereuse pour le Liban, car la raison d'être est précisément de servir d'assurance-vie aux régimiens pour éviter ce genre d'attaque. Aujourd'hui, les ailes de Téhéran ont déjà été rognées, le Hezbollah est affaibli, le régime syrien est tombé, l'Iranien est très populaire à l'intérieur.
Malheureusement, Karim, pardon, je vous interromps. On va essayer de rétablir une meilleure liaison avec vous parce que bizarrement, la liaison est très hachée. On n'arrive pas à bien vous comprendre. Nous reviendrons vers vous dans quelques minutes, bien sûr, en essayant d'améliorer tout cela sur le plan technique. Comment expliquez-vous, François Hesbourg, les réactions ambiguës de Washington qui disent tantôt il s'agit bien d'une action unilatérale d'Israël et qui, d'un autre côté, et le président Trump l'a répété hier, dit « Ah, c'était une attaque excellente et ce n'est pas fini ».
Oui, le président Trump n'aime pas les mauvaises surprises. Et visiblement, il préférait poursuivre la négociation avec l'Iran. Et il y a déjà eu 5 réunions de négociation. La 6e était prévue au moment où l'attaque israélienne a eu lieu. Et les Américains auraient visiblement préféré qu'il n'y ait pas eu d'attaque israélienne, même s'il la sentait venir. Ça faisait 48 heures que les Américains avaient rapatrié une partie de leur personnel diplomatique depuis Bagdad, et que le bruit de l'intervention israélienne courait à Washington. Mais c'est un petit peu comme dans l'affaire ukrainienne, où le président Trump était visiblement très mécontent de l'opération ukrainienne contre les bases stratégiques russes. Les Américains préfèrent leur négociation à la politique, à des autres protagonistes, en l'occurrence l'Ukraine dans un cas et Israël dans l'autre cas.
Hier, vendredi, le Premier ministre israélien a téléphoné à plusieurs dirigeants étrangers, dont Donald Trump, aussi Vladimir Poutine, semble-t-il, et les Européens. Il y a eu un entretien en particulier avec le président Macron, qui a répété qu'Israël avait le droit de défendre ses intérêts. François, comment interpréter ce tour de piste téléphonique de Benjamin Netanyahou? C'est une manière d'essayer de s'assurer un soutien occidental aujourd'hui?
Oui, bien sûr, d'autant plus que les États occidentaux avaient, lors de la réunion de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, condamné les violations par l'Iran de ses engagements en matière de non-prolifération nucléaire, autrement dit, de la part de Benjamin Netanyahou, ces appels téléphoniques étaient, la moindre des politesses. On allait vers un affrontement et les Israéliens ont préféré, je pense à juste titre d'ailleurs, prévenir ceux-là même dont ils demandaient le soutien à l'Agence internationale pour l'énergie atomique.
Karim Bitar, nous retournons à Beyrouth en espérant mieux vous entendre. Quelle est donc l'interprétation pour vous et vue de Beyrouth de ce nouvel embrasement ?
L'angoisse est assez grande au Liban. C'est généralement le pays qui paie le prix de ce genre de conflit. Mais il y a quelques mois, la situation aurait été bien plus dramatique lorsque le Hezbollah était tout puissant. Aujourd'hui, cette nouvelle guerre intervient alors que les ailes de Téhéran ont été considérablement rognées. Le régime syrien est tombé, le Hezbollah est considérablement affaibli. Le régime iranien est impopulaire aussi bien en interne que dans la plupart des pays arabes. Il n'en reste pas moins que cela pourrait paradoxalement ressouder des ennemis intimes. L'une des premières réactions a été la réaction saoudienne qui a condamné très vivement cette attaque israélienne, qui a parlé de l'Iran comme d'un pays frère, alors qu'il y a 10 ans, c'était plutôt les Saoudiens qui incitaient l'Amérique à frapper l'Iran, qu'ils qualifiaient l'Iran de tête du serpent. Aujourd'hui, MBS est dans un autre état d'esprit. Sa priorité était la stabilité régionale, le développement économique, et ces frappes israéliennes viennent risquer un embrasement régional. Reste à savoir si les États-Unis étaient véritablement hostiles à cette frappe, parce que il y a à peine une heure, le site Axios.com, qui est en général très bien informé, publie un article citant 2 officiels israéliens disant qu'ils avaient obtenu un feu vert américain avant ces frappes, qu'il y avait donc du côté de Trump une tentative en public de faire semblant de n'avoir pas véritablement autorisé, car une partie de sa base est hostile à ces guerres au Moyen-Orient. Si les États-Unis ont effectivement accepté qu'Israël frappe l'Iran en espérant pouvoir extraire des concessions beaucoup plus significatives durant les négociations, ce sera peut-être un mauvais calcul, car les Iraniens sont très susceptibles, un nationalisme très sourcilleux, et paradoxalement, cela pourrait conduire à une sorte de ralliement autour du drapeau, quand bien même le régime serait très impopulaire. Lorsqu'il y a des frappes venant d'Israël, que des civils sont frappés, cela ne fera que retarder éventuellement le programme nucléaire iranien, mais ce ne sera pas facile de mettre à genoux un pays de plus de 90 millions d'habitants. On peut supprimer des savants, des experts nucléaires, il y en aura des centaines d'autres qui vont émerger. Donc nous sommes au début de ce qui risque d'être une longue guerre qui risquerait de déstabiliser l'ensemble de la région et l'économie mondiale. Et c'est aussi en grande partie une fuite en avant de la part d'un premier ministre israélien acculé. Et ce qui m'a semblé très frappant aussi, c'est le titre de cette opération, le nom donné, le lion dressé. C'est un verset biblique, en effet. Et c'est le triste symbole de notre époque. On voit l'intelligence artificielle, le nec plus ultra de la technologie, mise au service d'un certain obscurantisme religieux, des ethno-nationalismes qui sont de retour. Car quand même, ce verset biblique n'est pas insignifiant. Il dit « Le lion se dressera et ne se couchera pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang des victimes ». Donc nous vivons dans une époque où l'imaginaire religieux, les symboliques de la Torah, et en l'occurrence du livre des Nombres, le 4e livre de la Bible, sont instrumentalisés, tout comme l'intelligence artificielle est utilisée pour terrasser l'ennemi. Donc cette combinaison de recours aux religieux et d'une supériorité israélienne écrasante en matière de technologie, de renseignement, en matière militaire, peut faire craindre le pire.
Mais on peut dire aussi, bien évidemment, que les mêmes invocations religieuses sont brandies incessamment par le régime des mollahs. C'est même sa quintessence, en quelque sorte. Azadeh Kian, pour la société iranienne, comment peut être perçue ces attaques israéliennes sur un régime d'abord, sur un régime dont on sait que les conditions économiques, l'oppression religieuse l'ont rendu assez largement impopulaire.
Tout à fait. Bonjour d'abord. Effectivement, moi je pense que la société iranienne n'est pas du tout homogène. On a vu les réactions aussi assez hétérogènes de la part de la population. Il y a néanmoins une bonne partie de la société, ce que j'ai pu entendre à travers mes communications depuis ce matin, les Iraniens sont tétanisés, sous le choc et surtout ont très très peur parce que n'importe quel immeuble résidentiel à Téhéran ou à Shiraz ou ailleurs peut être aussi attaqué. On ne parle pas des personnes civiles tuées, il y aurait plus d'une 70 personnes tuées, plus de 300 personnes blessées selon les chiffres du gouvernement iranien.
Sont des chiffres provisoires, bien sûr, donc on peut craindre qu'ils ne s'aggravent.
Absolument, et donc c'est la peur, et donc dans ces circonstances-là, beaucoup pensent que la société civile iranienne va être davantage fragilisée, affaiblie des suites de ces attaques israélienne, puisque aujourd'hui le régime sera encore davantage répressif à l'encontre de ceux et celles qui souhaitent revendiquer la démocratie, qui revendiquent la liberté, etc. Donc en fait, contrairement à ce que prétend M. Netanyahou, ces attaques ne vont pas profiter ni à l'Iran ni à la société iranienne. Ils sont en train de détruire des pans entiers du pays et les civils iraniens aussi. Après, selon ce que j'ai pu comprendre, personne n'est là à pleurer les généraux des gardiens de la révolution tués suite à ces attaques-là non plus, mais ce ne sont que des pions. Je veux dire, Khamenei le guide n'a mis que quelques minutes à peine afin de les remplacer. Donc en fait, ce sont des gardiens, des commandants qui ont été remplacés, et donc c'est pas en les tuant que Israël parviendra justement à venir à bout de ce régime. C'est pas non plus en attaquant l'Iran et en détruisant le pays qu'il parviendra à faire un changement de régime. Donc au final, comme ça a été dit, comme Karim El-Mbitar l'a dit, c'est davantage la déstabilisation aussi de la région, d'où la réaction très rapide des autorités saoudiennes, mais également turques et d'autres pays de la région qui ont condamné ces attaques contre l'Iran, à un moment où les Iraniens justement étaient en train d'essayer de normaliser leurs relations avec les pays de la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères était il y a très peu de jours en Égypte, par exemple. Donc, effectivement, la déstabilisation de la région est contraire aux intérêts de l'ensemble des pays de la région. Et d'une part, d'autre part, quand on dit qu'Israël a le droit de se défendre, certes, mais l'Iran aussi. Et d'ailleurs, c'est pas l'Iran qui a attaqué Israël, c'est Israël qui a attaqué l'Iran à un moment où les Iraniens et les États-Unis étaient en train de négocier. Vous le savez aussi, dimanche, c'était prévu que les négociations continuent. Donc, moi, je ne vois pas de logique quant aux attaques tous azimuts israéliennes contre ce pays.
Frédéric Ancel, du point de vue israélien, vous nous disiez d'entrée qu'il y a un consensus, il y a un soutien à l'action de Benjamin Netanyahou contre l'Iran. Néanmoins, il y a aussi cette idée d'un isolement d'Israël dans une région avec laquelle, au contraire, le plan américain et le plan de Donald Trump dans la poursuite de ce qu'il avait réussi lors de son premier mandat, les accords d'Abraham, c'était une normalisation. Et on voit là que Benjamin Netanyahou poursuit une sorte de fuite en avant.
Alors, je ne sais pas si c'est une fuite en avant, je serais beaucoup plus prudent que ce qui a été dit jusqu'à présent, notamment sur le plan discursif et rhétorique que les Saoudiens condamnent. Oui, ça, c'est une logique implacable parce que les Saoudiens n'auraient absolument aucune espèce d'intérêt, bien évidemment, mais surtout aucun moyen de riposter en dépit des centaines de milliards de dollars qu'ils consacrent depuis un peu presque 100 ans maintenant à acheter du matériel américain très performant si les Iraniens s'en prenaient, comme ça a déjà été le cas il y a quelques années, à leurs installations pétrolières. En réalité, les Saoudiens craignent comme la peste l'avènement d'un Iran nucléarisé. Alors évidemment, aujourd'hui, ils ont intérêt à proclamer une très grande fraternité avec Téhéran, à laquelle je ne crois mais absolument pas. On est sincèrement dans du discursif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'isolement d'Israël. Moi, je constate que un peu plus de 20 mois de guerre à Gaza, les quatre pays signataires des accords d'Abraham de 2020 non seulement n'ont pas dénoncé leur accord, mais au moins deux d'entre eux, les plus importants d'ailleurs, les Émirats et le Maroc, entretiennent un volume d'échanges et une valeur d'échanges, y compris sur le plan militaire, avec Israël, qui s'accroît de manière absolument considérable. Le troisième et dernier point que je voudrais souligner, c'est que Netanyahou n'a pas inventé la possibilité pour l'Iran d'obtenir, contre le droit international, la bombe. Je me permets de rappeler quand même que l'AIEA, qui n'est pas le Likoud, l'AIEA, c'est la branche onusienne liée à, depuis le traité de non-prolifération de 68, qui est la branche officielle de l'ONU consacrée à la surveillance donc du nucléaire. En 2002 déjà, à Vienne, l'AIEA avait considéré que la République islamique d'Iran mentait et que, contrairement à ce qu'elle affirmait, le nucléaire qu'elle poursuivait n'était pas à usage exclusivement civil, mais devenait très potentiellement à usage militaire. Et c'est si vrai que cette même ONU, via le Conseil de sécurité, l'exécutif onusien, le 1er janvier 2007 déjà, fort de la des négligences iraniennes, enfin, qui refusaient de répondre aux injonctions et aux questions des ingénieurs de l'AIEA, il y a le 1er janvier 2007, un premier train de sanctions, il y en aurait beaucoup par ailleurs ensuite, était imposé à l'Iran au Conseil de sécurité. J'insiste parce que ça signifie que la Russie et la Chine avaient voté ces sanctions-là. Donc quand, et vous rappeliez à juste titre qu'il y a quelques jours de cela, l'AIEA elle-même, encore elle, considérait que là on arrivait à un point, enfin à un seuil extrêmement critique. Écoutez, je pense que là, de ce point de vue-là en tout cas, au sens très régional du terme, Israël ne s'isole pas particulièrement. Puis alors, dernier point, si vous permettez, je dis d'une phrase, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'instrumentalisation religieuse au profit du politique. Mais comme vous le rappeliez vous-même, Christine O'Krent, c'est la marque de fabrique de la République islamique d'Iran. Ça a été celle du Hezbollah. C'est celle d'un certain nombre de régimes politiques, entre parenthèses, c'est vrai aussi aux États-Unis. Ça a été vrai au Brésil avec M. Bolsonaro. C'est vrai jusqu'en Inde avec M. Modi. Donc là, on est sur quelque chose qui existe en Israël, mais enfin qui est extrêmement universel, en réalité, par les temps qui courent.
Précisément, cette invocation de Dieu sans arrêt, et Donald Trump n'est pas en reste, et surtout depuis qu'il a échappé à cette tentative d'assassinat en juillet dernier, juillet de l'année dernière, François Hesbourg, pour les Européens en particulier, qui ne cessent de s'interroger aussi sur la façon dont le président américain désormais gère la puissance de son pays entre occidentaux. On va voir ce que va donner au Canada la semaine prochaine la réunion du G7. On sait que Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand se sont entretenus au téléphone au sujet de ce nouvel épisode au Moyen-Orient. Comment les Européens en tant que tels peuvent-ils peser dans un tel contexte ?
D'abord, les Européens ont les mêmes motifs d'inquiétude aujourd'hui que ceux qu'ils ont eus depuis 20 ans s'agissant du programme nucléaire iranien. Et là, je rejoins ce qu'a dit Frédéric Ancel. Et cette inquiétude n'est pas nouvelle. Les engagements de non-prolifération ont posé problème du côté iranien depuis fort longtemps. Et pour les Européens, qui sont quand même qui vivent pas très loin de la région considérée, Il est évidemment essentiel que l'Iran ne devienne pas une puissance nucléaire dont la possession de la bombe entraînerait vraisemblablement, comme le rappelait le président Chirac, ce qui ne nous rajeunit pas, et il y a déjà longtemps, il disait, l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Égypte emboîteront le pas à l'Iran. Donc les Européens ont toutes les raisons de faire ce qu'ils font dans la crise actuelle. Ils ont eu raison de condamner l'Iran il y a, j'allais dire, à peine quelques heures à l'AIEA, comme d'ailleurs la majorité des États membres des Nations Unies. C'est quand même pas rien. C'est ça qui est en jeu. Mais à la fin des fins, ce qui va compter, c'est de savoir si les Israéliens auront réussi ou non à mettre par terre la capacité d'enrichissement militaire de l'Iran, notamment à travers les installations nucléaires de Fordo, au sud de Téhéran. Pour l'instant, à moins que les nouvelles aient changé au cours des toutes dernières minutes, à ma connaissance, tel n'était pas le cas. Si les Israéliens réussissent à provoquer ce désarmement nucléaire de l'Iran, je pense que les Européens seront nettement plus à l'aise et respireront. Si les Israéliens n'y arrivent pas, et ce qui est tout à fait possible, à ce moment-là, nous entrons dans une période de crise économique, politique, stratégique, dans laquelle nous souffrirons et dans laquelle nous serons nécessairement dépendant en partie des décisions américaines, sachant que les États-Unis, encore une fois, n'ont pas envie de rentrer dans un cycle de guerre au Moyen-Orient. Le président Trump a été réélu en partie à travers une plateforme de refus de la guerre, je ne pense pas que Trump va sauver la mise aux Israéliens ou aux Européens dans cette affaire.
Et on verra aussi comment le président américain, qui participera non seulement à la réunion du G7 au Canada, mais aussi au prochain sommet de l'OTAN avant la fin du mois à La Haye, on va voir là comment, parce qu'on ne décrypte pas toujours d'un message sur les réseaux sociaux à l'autre quelle est véritablement sa position, on verra précisément comment il articule désormais la politique américaine par rapport à celle de ses plus anciens alliés, en l'occurrence le Canada, l'Australie et bien sûr les Européens. Karim Bitar, sur cette idée que, en fait, dans la région, à commencer par l'Arabie saoudite, au-delà, disons, des bonnes manières diplomatiques et de l'expression que vous avez rappelée, puisque le communiqué officiel saoudien est presque sentimental s'agissant du soutien apporté à Téhéran, on sait aussi qu'il y a, pour les régimes arabes, une vraie crainte de la puissance iranienne et un certain soulagement à voir le Hezbollah, le Hamas, très affaibli.
Oui, en effet, la plupart des dirigeants arabes considéraient que l'Iran représentait une menace stratégique. Aujourd'hui, cela dit, ils se souviennent également que dès 1984, les journaux israéliens comme Maariv faisaient des unes en disant « l'Iran est à quelques semaines de l'arme nucléaire » et que au cours de ces 40 dernières années, à plusieurs reprises, on a eu le sentiment qu'Israël criait au loup et qu'on exagérait ce potentiel iranien, cette volonté iranienne d'accéder à l'arme nucléaire. Les Saoudiens sont en effet capable très vite d'y accéder aussi grâce au Pakistan si l'Iran devait se doter de l'arme nucléaire. Mais pour le moment, c'est quand même, vu du reste du monde, c'est quand même assez ironique de voir un pays qui est Israël, qui dispose, même s'il ne le proclame pas officiellement, de 200 ou 300 ogives nucléaires, attaquer un pays, l'Iran, qui avait quand même fait d'énormes concessions avec le JCPOA en 2015, accepter de renoncer à l'enrichissement, limiter considérablement les centrifugeuses. Et il faut rappeler que Donald Trump a unilatéralement déchiré cet accord, qui n'était pas un accord bilatéral, mais qui impliquait également l'ONU, l'Union européenne, etc. Alors, au moment où il était sur le point de repartir à zéro, le fait de voir et qu'il était prêt à renégocier avec l'Iran, le fait de voir Israël attaquer unilatéralement l'Iran vient encore une fois donner le sentiment dans le reste du monde que la parole occidentale est complètement démonétisée, que les règles de droit sont passent à la trappe dès qu'il s'agit d'Israël et qu'on est dans le règne de la force brute. Et encore une fois, quand bien même on parviendrait à détruire le programme existant, ce n'est qu'une question de temps avant que ce système ne soit remis à flot. Comme quelqu'un l'a dit, ils sont interchangeables. On ne peut pas bombarder du savoir-faire. Les Iraniens pourraient très vite se montrer encore plus désireux d'accéder au seuil nucléaire et à l'arme nucléaire parce qu'ils savent que la survie de leur régime dépend de cela. Ils ont vu ce qui est arrivé à Saddam Hussein et à Kadhafi après qu'ils aient renoncé à leurs armes de destruction massive. Donc si ce régime ne chute pas, s'il parvient malgré sa faiblesse actuelle à survivre à cette crise, il pourrait être tenté d'accélérer cette fuite en avant qui n'est pas uniquement celle d'Israël, mais eux aussi, les Iraniens, pourraient être tentés à ce moment-là d'accélérer véritablement ce projet. Alors que jusqu'à aujourd'hui, on a le sentiment qu'en Occident, on a parfois exagéré cette menace iranienne pour maintenir à flot le complexe militaro-industriel, la volonté de mettre au pas la région. Et nous étions dans une phase de détente après la mort du président Raisi, après l'arrivée d'un nouveau président iranien qui semblait beaucoup plus ouvert. L'Iran a très peu réagi après l'assassinat du chef du Hezbollah. L'Iran a déjà avalé beaucoup de couleuvres, l'assassinat de Soleimani en 2020, le bombardement de Haniyeh à Téhéran même. Il ne faut pas sous-estimer les facteurs psychologiques, même si l'Iran est considérablement affaibli militairement. Si ce pays a le sentiment qu'il est en train de subir une vaste humiliation, même les plus farouches opposants au régime pourraient se voir contraints à nouveau de le soutenir, comme ce fut le cas à l'époque d'Ahmadinejad, qui était profondément détesté, qui était l'un des plus radicaux, des plus antisémites, et qui, parce qu'il y avait une épée de Damoclès en provenance de l'étranger, a réussi à se maintenir au pouvoir. Donc c'est ça que je crains aujourd'hui, que ces frappes ne viennent paradoxalement renforcer le pouvoir iranien plutôt que de l'affaiblir.
Précisément, Azadeh Kian, d'après vos sources, vous multipliez bien sûr les contacts en Iran et pas seulement avec vos réseaux qui s'intéressent très particulièrement, et c'est important bien sûr, au sort des femmes. Est-ce que vous partagez l'idée de Karim qu'il y aurait en fait un nationalisme iranien, une fierté iranienne qui ressoudrait en quelque sorte ce qu'on peut appeler encore l'opinion publique?
Je préfère de parler de patriotisme et non pas de nationalisme, parce que n'oublions pas que l'Iran est un pays multiethnique et multinational, multireligieux, ce qui fait que tous les Iraniens ne sont pas perses. C'est un Iranien très, très persique, si vous voulez, mais les Iraniens sont effectivement patriotiques. Aujourd'hui, je regardais les images des bombardements à Kermanshah, donc au Kurdistan iranien, et les personnes sur place réagissaient de la même manière que les Téhéranais. C'est-à-dire très contre les bombardements, effectivement. Maintenant, de là à dire que les populations vont, comme un seul homme, se ranger derrière le régime, je ne le pense pas. Le régime islamique d'Iran est un régime qui est détesté par plus de 80% de la population. Il y a toujours un mouvement social qui continue, fin vie liberté, hein, en Iran. Il y a toujours des manifestations tous les jours. On ne les voit pas dans les médias occidentaux, mais il y en a. C'est-à-dire que la protestation de cette société civile, mais qui souhaitait changer, souhaite toujours changer le régime de façon pacifique. Maintenant, le bombardement de l'Iran par Israël ne va absolument pas dans le sens voulu par cette société civile. Au contraire, ça va affaiblir cette société civile. Ça va donner tout ce qu'il faut au régime, hein, tous les, disons, les raisons, entre guillemets, les prétextes, je veux dire, à ce régime pour davantage réprimer la société civile. C'est cet écho-là que j'ai pu entendre aujourd'hui de la part de beaucoup d'Iraniens, iraniennes, que j'ai pu interroger, que j'ai pu lire aussi sur les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que, effectivement, comme ça a été dit, l'Iran, et que j'ai dit moi-même quand même, la politique actuelle du régime islamique d'Iran par rapport aux pays de la région n'est pas comparable à la politique sous Ahmadinejad ou sous M. Raïsi, etc. C'est une politique plus modérée, si vous voulez, d'une part, d'autre part. Pour l'instant, l'Iran n'a pas de bombes atomiques, heureusement, et les négociations en cours, à la fois avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et aussi avec les États-Unis, visaient à empêcher l'Iran d'avoir la bombe. Alors maintenant, je voudrais juste ajouter que l'Iran, en même temps, n'a absolument pas besoin d'enrichir l'uranium à l'intérieur de l'Iran. Et c'est ça aussi qui fait que beaucoup de pays européens, États-Unis, etc., et Israël aussi, soupçonnent la naturelle de ces enrichissements. Pourquoi ? Parce que vous savez, il y a une centrale nucléaire de Bouchir au sud de l'Iran qui fonctionne, qui a été créée par des Russes, et ce sont les Russes qui fournissent l'uranium enrichi nécessaire à cette centrale nucléaire. Il y a des centrales nucléaires de Téhéran, etc., qui sont désuètes et qui ne fonctionnent pas. Et donc, on se pose la question de savoir à quoi servent ces enrichissements de l'uranium. Bien sûr que le régime islamique d'Iran continue à les enrichir pour les utiliser comme un levier dans les négociations avec les États-Unis, mais en même temps, on voit bien à quel point cet enrichissement est contraire aux intérêts nationaux de l'Iran et en train de faire détruire ce pays. À cela s'ajoutent bien sûr les crises économiques existantes, politiques existantes, etc. Donc, on entre effectivement dans une phase absolument inquiétante où on peut même deviner non pas une guerre, parce que l'Iran n'a absolument pas les moyens militaires ni technologiques et techniques d'entrer dans une guerre réelle et véritable avec Israël. Les drones iraniens n'ont même pas pu atteindre leur but, vous savez. Les missiles iraniens ont été largement détruits par les attaques précédentes israéliennes, etc. Mais ils ont toujours gardé effectivement leur capacité de nuisance, ne serait-ce que dans la région. Et là, ce qui m'inquiète, si vous voulez, que ce qui inquiète les Iraniens que j'ai pu avec lesquels j'ai pu parler, c'est que l'establishment iranien, c'est-à-dire surtout les radicaux, décident de riposter en attaquant des militaires américains qui sont stationnés dans la région, qui sont à la portée donc des missiles iraniens. Et là, fera entrer directement dans la guerre les États-Unis. Donc on en est là, et je pense qu'à ce stade, l'ensemble des pays de la région, l'Europe, les Nations Unies, etc., doivent tout faire pour effectivement qu'on n'aille pas plus loin que ça dans ce conflit. Si j'étais
je vous arrête à Zadé parce que je voudrais avoir la réaction de Frédéric Ancel à vos propos précisément. On vérifie encore dans cette attaque, Frédéric Ancel, la qualité du renseignement israélien qui est donc arrivé en particulier dans un quartier résidentiel de Téhéran à frapper le lieu où se tenait une réunion au plus haut niveau des gardiens de la Révolution. Est-ce que ce souci d'avoir donc des sources d'enrichissement d'uranium différentes de celles qui ont été visées, cela fait partie des préoccupations du Premier ministre et de l'état-major israélien ?
Alors, de l'état-major, c'est une certitude, hein, ça a été démontré à maintes reprises, puisque des généraux, des chefs de renseignement s'en inquiétaient déjà ouvertement avant le retour de Netanyahou au pouvoir en 2009. Et dans l'intervalle assez modeste d'un petit peu moins d'un an, il y a de 3 ans de cela maintenant, qui n'était plus au pouvoir. Donc on a effectivement une constante en termes d'inquiétude à ce niveau-là, c'est tout à fait exact. Je dirais aussi que pour obtenir des résultats, de tels résultats en termes d'efficacité, y compris ces dernières années d'ailleurs, hein, avec un certain nombre d'ingénieurs, de chefs politiques et militaires, voire peut-être même l'un des chefs d'État en hélicoptère, je ne sais pas, c'est une hypothèse en tout cas, et des matériels. Pour être aussi efficace, même un service de renseignement aussi puissant que celui qui se trouve aux mains des gouvernements israéliens ne suffit pas. Il faut avoir des complicités sur place. Et ça, je dois vous dire que je discute avec beaucoup de confrères universitaires ou d'officiers supérieurs, de diplomates qui sont spécialisés sur ces questions-là, et pas seulement français, européens ou israéliens, et tous sont d'accord avec ça. Il est inimaginable que les Israéliens, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, hein, réussissent à faire tout ce qu'ils ont fait, encore ces dernières heures, peut-être maintenant, au moment où l'on parle, en Iran, un pays quand même relativement loin de leur base, sachant que très peu d'Israéliens parlent le perse, enfin, ils se comptent vraiment sur les doigts d'une main. C'est vrai aussi d'ailleurs avec le Hezbollah, et on l'a bien vu en 2024, sans avoir des complicités très importantes sur le terrain. Et je vous dirais que là, c'est une donnée d'autant plus fondamentale aux yeux des Israéliens aujourd'hui que, à l'inverse, Netanyahou est considéré comme l'un des, sinon le responsable principal, et ça c'est encore vrai au moment où je vous parle, de la part de la majorité de la population israélienne, responsable de la catastrophe du 7 octobre à Gaza. Alors même que le Hamas n'était, je mets ça entre guillemets, qu'une menace tactique. Alors elle a fait très mal, mais cette menace n'était que tactique par rapport à une menace stratégique ou vitale, si vous préférez, j'en parlais tout à l'heure, que constitue la menace iranienne. Et vous voyez, aujourd'hui, beaucoup d'Israéliens, y compris dans les cercles militaires, disent « Très bien, Netanyahou a consacré beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, a ordonné beaucoup de missions, est allé chercher beaucoup de complicité face au Hezbollah et aujourd'hui face dans le dossier du nucléaire iranien, là où il avait totalement échoué à quelques centaines de mètres des kibboutzim israéliens, voyez. Et donc ceux qui aujourd'hui le soutiennent dans son offensive militaire en Iran, pour certains d'entre eux en tout cas les plus sévères, rappellent que effectivement c'est une nécessité politique vitale pour lui de montrer que, alors sans effacer le 7 octobre parce que c'est ineffaçable, mais de montrer que malgré tout il avait sur le dossier le plus important pour les Israéliens préparer en quelque sorte le terrain de manière extrêmement efficace.
Karim Bitar, le risque d'une riposte iranienne qui irait frapper non pas Israël, et on a vu effectivement vendredi les drones iraniens interceptés déjà au-dessus de l'espace aérien jordanien, défendant donc son propre espace national et n'arrivant pas jusqu'en Israël. Mais ce risque que les radicaux du régime de Téhéran visent des intérêts américains, malgré les mises en garde du secrétaire d'État Marco Rubio, qui dès avant-hier disait « Attention, il n'est pas question que vous y touchiez ». Est-ce que c'est, selon vous, un risque qui, vu de Beyrouth, encore une fois, existe?
Certains radicaux iraniens pourraient certainement entretenir cette idée, mais elle serait véritablement suicidaire. Monsieur Trump répliquerait immédiatement avec la brutalité dont il est capable et les dirigeants iraniens seraient en train de signer leur arrêt de mort et la chute de leur régime. Alors qu'ils sont plutôt dans une logique aujourd'hui de survie du régime. Leur priorité, comme celle de la plupart des pays de la région, des régimes de la région, est de se maintenir au pouvoir. Donc je pense qu'ils seraient prêts à faire de nouvelles concessions, à cesser complètement tout soutien à leur proxy, à changer leur comportement pour éviter justement que les États-Unis et Israël n'imposent un changement de régime à Téhéran. Donc je pense que même si certains radicaux peuvent être tentés de montrer une certaine dissuasion, même s'ils n'en sont plus véritablement capables, la ligne qui va prédominer à Téhéran, ce sera d'un côté des discours mettant en avant une supposée patience stratégique c'est-à-dire on choisira le lieu et l'heure d'une éventuelle riposte qui ne viendrait jamais, mais ils vont plutôt s'asseoir à la table des négociations. Et si les États-Unis ne leur imposent pas des termes qui soient trop humiliants, les Iraniens choisiront la survie de leur régime, fût-ce au prix du lâchage de tous leurs alliés régionaux.
Et donc ça veut dire, Karim, qu'on pourrait imaginer que des négociations reprennent au sultanat d'Oman. Elles devaient avoir lieu demain, je crois. L'émissaire américain Witkoff, l'ami de Donald Trump et son partenaire de golf, qui est en charge de cette négociation là aussi, devait reprendre le chemin de Moscat. On peut imaginer, après une telle attaque israélienne, que des négociations reprennent, à votre avis ?
Prochaines 48 heures, comme initialement prévu, les Iraniens auront besoin d'un peu de temps pour assumer ce choc. Mais en effet, un autre ami, un vieil ami de Trump, Tom Barrack, qui est aujourd'hui l'ambassadeur envoyé spécial pour la Syrie, vient également de tweeter qu'il ne fallait pas brûler tous les ponts avec les Iraniens, qu'ils étaient prêts à maintenir une voie de retour, des canaux de dialogue, etc. Donc si dans 2 ou 3 semaines, les Iraniens sont prêts à avaler encore une fois cette couleuvre et à s'asseoir avec les États-Unis, là on pourra dire que la stratégie de Trump aura été payante, c'est-à-dire de contraindre les Iraniens à accepter des concessions qu'ils n'auraient certainement pas acceptées il y a 6 mois.
Même si, François Hesbourg, on peut imaginer que Benjamin Netanyahou a fait montre d'une au moins d'une grande autonomie dans le moment où il a déclenché cette attaque. Se serait-il véritablement avec Washington ?
Alors, moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les Américains, je pense, voudraient reprendre le fil de la discussion. Et est-ce que les Israéliens accepteraient de jouer ce jeu-là, et je ne le pense pas. Je pense que Christine, vous avez raison. Et, Benjamin Netanyahou exerce une forte autonomie par rapport à Trump, contrairement à une opinion qu'on entend assez souvent en France. Les relations entre Trump et Bibi Netanyahou sont mauvaises. Ce ne sont pas des comparses, ce ne sont pas des complices. Je ne vois pas de jeu coordonné entre, j'allais dire, le méchant policier israélien et le gentil policier américain. Le gentil policier américain qui, quelque part, donnerait à fumer une cigarette aux Iraniens après le choc provoqué par les Israéliens. Ça je ne le crois pas. Je ne crois pas du tout à un jeu de rôle. Par contre, est-ce que les Américains voudraient tenter de renouer les fils? Ça, assurément. Mais les Israéliens ne les aideront pas dans cette tâche-là. Je pense que les Israéliens voudront continuer de tenter de bloquer les progrès nucléaires de l'Iran. Et si les facilités nucléaires de Fordow ne sont pas détruites dans les frappes actuelles, les Israéliens chercheront à le faire par la suite. Donc je suis plutôt pessimiste sur l'évolution de cette affaire. Je crois plutôt à une guerre longue, difficile, entre les Israéliens et les Iraniens.
Une guerre longue, dites-vous, François. C'est d'ailleurs ce qu'a promis Benjamin Netanyahou en disant « ça va durer plusieurs jours ». Donc cela voudrait dire, selon vous, encore une fois, les réunions internationales au plus haut niveau qui auront lieu la semaine prochaine, il y aura évidemment aussi au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence, mais ça, à la limite, hélas, le théâtre onusien a perdu beaucoup de son importance. Mais il y a encore une fois ces réunions la semaine prochaine, et en particulier pour la France, l'initiative du président Macron qui veut, on en a discuté ici même samedi dernier, le président Macron qui veut pousser à une reconnaissance de l'État palestinien et qui d'ailleurs, pour cette raison, a subi les foudres de Jérusalem. Donc François, est-ce que dans un tel contexte, il y a encore de la place pour la diplomatie ?
Oui. J'espère qu'il y en a. J'espère que l'initiative franco-saoudienne ne va pas être une victime collatérale de ce qui s'est passé aujourd'hui et de ce qui va continuer à se passer dans les heures et les jours qui viennent. Mais je crains fort qu'il va falloir remettre cette opération-là à plus tard. Ce qui se passe quand même en ce moment est vraiment grave. C'est la première grosse frappe coordonnée militaire générale de l'Iran, de l'Israël, pardon, contre le programme nucléaire iranien. Je ne vois pas comment cette affaire pourrait en quelque sorte s'arrêter au milieu d'une guerre. Alors c'est une de ces situations où je voudrais avoir tort.
Vous voudriez avoir tort, mais néanmoins, est-ce que ce ne sera pas pour la diplomatie française, disons-le, une manière d'éviter un échec probable de cette initiative, puisque le prince héritier saoudien ne semblait plus prêt à y participer de façon aussi ouverte. Et donc, François, est-ce que ce n'est pas là, précisément en fonction de la gravité de l'attaque israélienne de la nuit de jeudi en vendredi, est-ce que ce n'est pas l'occasion finalement de dire « Écoutez, voilà, les circonstances ne s'y prêtent pas et nous remettons à plus tard cette idée-là »
Encore faut-il, bien entendu, que les Saoudiens, eux, soient prêts à laisser retomber l'émotion du moment. Je suis d'accord avec Frédéric Ancel pour parler du caractère démonstratif, certains diraient performatif, des propos saoudiens, la condamnation saoudienne d'aujourd'hui. Le fait est que les Saoudiens ont prononcé les paroles qu'ils ont prononcées et je les vois mal, malheureusement, tout d'un coup revenir au business as usual qu'aurait été la réunion franco-saoudienne prévue dans les jours qui viennent. Encore une fois, j'espère me tromper. J'espère que les Saoudiens seront moins émotionnels, si je puis dire, que ne laisseraient supposer leurs propos d'aujourd'hui. Mais encore une fois, nous le saurons toujours assez vite hein, dans les jours qui viennent.
Merci à vous tous. Françoise Bourg, je rappelle votre dernier ouvrage « Un monde sans l'Amérique » chez Odile Jacob. Azadeh Kian, vous avez publié un ouvrage en anglais sur le genre, l'ethnicité et la religion en Iran chez Bloomsbury. Héloïse Fayet, bien évidemment, sur le site de l'IFRI et aussi sur le site du média « Warm by 2050 Now », des études très très précises sur les enjeux nucléaires. Karim Bitar, vous êtes au cœur de l'entretien qui a servi de préface au dernier numéro de Confluence Méditerranée sur le Liban aux éditions L'Harmattan. Et Frédéric Ancel, vous avez publié chez Odile Jacob « La guerre mondiale n'aura pas lieu ». Voilà, à la réalisation, Luc-Jean Reynaud, à la technique, Tila et Ravu. Laura Dutèche-Pérez m'a aidé, bien sûr, à préparer cette émission ainsi que la documentation de Radio France. Et voici les carnets de santé de Marina Carrère-Dancos. Bon week-end et à samedi prochain.